où le texte sera articulé avec l'image. C'est-à-dire que je n'ai pas intégré le texte, sauf des titres de chapitres, dans le diaporama, dans le PowerPoint. Je vais vous lire quelques éléments, c'est plus pour par économie, hein, parce que sans ça, je pense que j'en oublierai certains ou je serai un peu long, comme ça, ça permet d'être, de pas prendre trop de temps. Et ce qui est important là, si vous voulez, c'est l'essai que je fais dans le rythme de l'articulation entre ce que je vais dire, c'est-à-dire l'hypothèse d'analyse concernant justement cette question, cette contribution au thème général du pouvoir en image, et puis l'exemple présenté qui est celui de l'organisation politique Sakhalav à travers l'exemple du royaume du Ménabé, et qui nous mène d'une période assez ancienne, puisque on démarre au XVIIe siècle, et on arrive en 1947. Bon. Vous savez qu'à Madagascar, en 1947, il y a eu des événements terribles, une répression très, très féroce, si vous voulez, de la révolte des Malgaches contre l'occupation coloniale. Et si vous voulez, le tout est lié. Il faut considérer ça comme un premier épisode. J'aurais pu effectivement traiter un deuxième épisode, toujours sur la même, dans la même logique, mais je pense que ça aurait été difficile de l'intégrer dans un temps aussi limité, qui aurait, concerné toute la période de l'exercice, du pouvoir à Madagascar depuis l'indépendance, et qui se situe, de toute façon, dans la même logique, à savoir qu'il y a deux logiques politiques fondamentales à l'œuvre, une qui est celle du jeu de fonctionnement des institutions héritées de la période coloniale, des institutions calquées sur le modèle français, et l'autre qui est la continuité, si vous voulez, de l'exercice d'un pouvoir politique dans l'héritage de ce que je vais essayer de démontrer là. Bon, mais ça, peut-être, ce sera pour une prochaine fois. Alors, bon, on commence là. Il s'agit donc d'une mise en scène, d'un découpage, d'une association des images du pouvoir dans la royauté Sakhalav, s'appuyant sur l'idée que les images intérieures de chacun, forgées dans la culture et l'histoire de cette société, à travers son apprentissage social, précédant et accompagnant l'apprentissage de la langue, sont en quelque sorte traduisibles dans des images extérieures, et qu'une des formes de l'exercice du pouvoir correspond au passage ininterrompu et constant des unes aux autres, représentant une double voie, mais jamais proprement séparée, tour à tour discursive et affective, favorisant de cette manière l'adhésion au fondement du pouvoir politique et religieux, les deux étant par définition intimement liés. Et si nous les opposons, c'est uniquement pour des facilités d'analyse. Plusieurs déclinaisons étroitement dépendantes les unes des autres ont été choisies pour révéler ces images. La possession, l'aiguisé, l'espace, le bœuf, le corps, le talisman. Ces déclinaisons constituent des sortes de nœuds de l'interrelation des images intérieures avec les images extérieures. Alors, je vais vous présenter... Là, j'ai choisi une image très classique, une carte dressée par Étienne de Flacourt, où on voit apparaître pour la première fois une mention du royaume dont il est question ici. C'est-à-dire, c'est pas le nom du royaume, mais c'est le nom de souverain qui s'appelait Anden des Fout. Et là, on voit apparaître, j'ai fait un petit œuf, où c'est Laifouti. Donc, vous voyez, nous sommes en 1656, à l'époque où il va faire cette carte, au moment où il séjournait à Madagascar. Je vais vous imposer, je m'en excuse, mais vous êtes des historiens pour la plupart, je pense que vous y serez sensibles, un cadre général pour qu'on sache de quoi on parle. Hein. J'en ai pas trop mis, mais il y a un minimum pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et après, on entrera dans le vif de la question que j'ai essayé de poser. Et alors, une deuxième petite image aussi, parce que je l'aime beaucoup, elle vient du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. Donc, elle a été réalisée vraisemblablement par un officier de la marine nationale française, et qui montre très bien d'ailleurs qu'elle était la dominante du paysage de la côte ouest de cette époque, avec ses pâturages et ses bœufs. Vous comprendrez très vite pourquoi dans ce que je vais dire là maintenant. Les Sakalaks du Ménabé vont constituer le peuple qui porte ce nom avec l'émergence d'un système politique original au début du XVIIe siècle dans la région centrale de la côte ouest de Madagascar. La région, occupée par le futur territoire de ce royaume, s'étend du sud au nord, limitée par deux fleuves puissants, éloignés l'un de l'autre d'environ 300 km à vol d'oiseau. La dynastie fondatrice du royaume du Ménabé est issue de migrants ou de marchands plus ou moins islamisés, d'origine arabe, perse, indienne ou indonésienne, dépositaires de conceptions politiques, religieuses et sociales qui sont à l'origine de la plupart des institutions de la royauté Sakalak. Progressant du sud vers le nord pendant plus d'un siècle, les souverains Sakalak vont progressivement pacifier le pays, ménageant des alliances avec les groupes autochtones les plus puissants, en particulier les groupes d'éleveurs, en favorisant alors l'ouverture de pâturages immenses et un développement très important de l'élevage des zébus. Tout au long de cette même période, la dynastie conquérante, animée par un véritable génie politique, incorpore peu à peu les anciennes pratiques religieuses pour les adapter, entre guillemets, à la mesure du royaume en gestation, récupérant à son profit, dans une généalogie mythique qui la lie directement à la divinité suprême, les ancêtres fondateurs des différents groupes intégrés dans le nouveau système. Désormais, le culte rendu aux ancêtres royaux consacrera le nouvel espace territorial qui place le souverain et toute sa lignée comme le descendant direct de la divinité suprême. Deux régimes de vérité sont donc à l'œuvre, et ça c'est très important. Le premier, qui naît de la parole infaillible du roi, puisque, par la voix de ses ancêtres à travers la possession, Dieu parle par son intermédiaire. Le second est le résultat d'un ensemble de savoirs qui, comme le Vind ou l'astrologie, permet d'approcher les intentions, entre guillemets, des ancêtres de la divinité suprême en construisant des bribes de vérité qui ne font jamais que révéler la présence du divin, de Dieu créateur, André Nanar. Les jeux illimités de la transparence du cosmos, de Dieu, pur cristal, à l'esclave qui est noir, déclinent tous les degrés du Ashn, du sacré vérité, de la hiérarchie des sujets dans le royaume. La part essentielle de la vie politique se jouait dans cette arène. Le roi et ses descendants ne peuvent être pris en possession par leurs propres ancêtres, puisqu'ils appartiennent déjà, par leur nature même, au monde divin. En quelque sorte, ils sont une part de leurs ancêtres, une part de divin sur terre, installée entre les vivants et les morts, machne, sacrée, et détenant ainsi une fraction de la vérité du monde, ce qui fonde la légitimité de leur pouvoir. Au moment du bain des reliques royales, cérémonie annuelle au cours de laquelle le roi renouvelle son alliance privilégiée avec le cosmos, sur le modèle du temple de la félicité chez les Chinois, garante de la santé, de la fécondité et de la prospérité de tous ses sujets, on baigne les reliques de tous les ancêtres de la dynastie, célébration symbolique des alliances historiques qui sont à l'origine du royaume. À cette occasion, le temps et l'espace sont tressés l'un avec l'autre, le temps mythique de la création du monde avec l'espace géographique de l'expansion visible du royaume. Alors, la possession par les ancêtres royaux, métaphore du divin, on reviendra là-dessus, une image qui représente à l'Inde, au rituel du bain des reliques, l'ensemble des possédés par les souverains de cette dynastie. Et là, une interview que j'avais réalisée en 70 est importante, puisque cette femme, qui est elle-même une possédée royale, va nous parler de ce que signifie la possession.
Nadie,
Excusez-moi. Bon, je crois qu'on a vu, il s'est passé quelque chose, mais on a vu l'essentiel. Je crois que ce qui est important de noter là, c'est que, bon, l'hypothèse aussi est de considérer que la possession, on a beaucoup parlé sur la possession, c'est aussi une image. Et c'est une image au sens où on a très rapidement évoqué la chose ce matin. Je ne vais pas reprendre le terme grec, d'ailleurs je n'arriverai pas à le prononcer. Vous savez, dans la religion orthodoxe, enfin, je pense au travail de Marie-Josée Monzin là-dessus, la possédée, c'est une icône. C'est-à-dire, c'est l'image que donne Dieu de lui-même aux hommes, qui n'a pas été fabriquée par les hommes. Et donc, c'est quelque chose d'une force absolument inébranlable. C'est pour ça que je voulais vous présenter cette image où elle explique, où elle essaie d'expliquer elle-même ce que ça pouvait signifier. Dans la société sakalave, comme dans toutes les sociétés malgaches, le dialogue avec les morts permettait de gérer les relations entre les vivants, garantissant les principes généraux de l'organisation sociale. Dialogue maîtrisé par le roi, les devins, les possédés, les prêtres niniagés et les sculpteurs. Vous allez voir pourquoi. Les sculpteurs, c'est extrêmement important. Chacun d'entre eux l'utilisant à son propre niveau, comme un outil de pouvoir incomparable. Le sculpteur, en régnant sur les tombeaux, régnait, on peut dire, au cœur des imaginaires. Au sens où, en fait, les sculpteurs, dans cette région, sur 3 siècles, on assiste à une évolution absolument extraordinaire de toute l'architecture funéraire, a précédé, par les innovations plastiques qu'ils proposaient, et a interprété l'ensemble des transformations, disons, de la société elle-même. En quelque sorte, la réflexivité, puisque c'est un terme qu'on utilise beaucoup maintenant, dans cette société, c'est-à-dire le regard qu'elle portait sur elle-même, était porté par le travail des sculpteurs. C'est-à-dire par des images que lui-même apportait, comparables d'ailleurs à celles qui se jouaient dans la possession, que lui-même apportait, et qui étaient à la fois, à chaque fois différentes, qualifiant une période, mais en même temps qui apparaissaient comme la tradition la plus pure qui soit. Ce qui est ça qui est intéressant. On parlait tout à l'heure justement des systèmes politiques qui doivent savoir aménager le changement en leur sein pour pouvoir survivre. L'œuvre proposée devait plaire, marquer son époque de telle manière que l'innovation la plus osée apparaisse en définitive comme la confirmation de ce qui s'est toujours fait, ainsi que l'on peut l'observer par ailleurs dans les cultes de possession, au sens où le possédé, support de l'image du roi, apportait une réponse politique qui devait convaincre. Ainsi, et au nom de l'ancêtre le plus éloigné, l'ancêtre royal le plus éloigné, on résolvait souvent les problèmes les plus actuels, ce qui mérite réflexion. L'artiste, le sculpteur, fonctionne sur le même registre que celui de la possession. Qu'il s'agisse d'une figurine magique en forme de talisman ou bien d'une sculpture funéraire, il fabrique un véritable paradigme dans l'ordre des images, là où il faut aussi être affecté pour comprendre et adhérer. Il réalise dans l'aboutissement social de sa création un propos commun, souvent inédit, et qui n'est possible que parce qu'il réveille et révèle à sa manière les images incorporées chez chacun, faisant jaillir une nouvelle vérité, la rendant justement possible, indispensable. Chaque période de la royauté est donc une période esthétique qui témoigne d'une recherche de la plus grande proximité possible avec le souverain, avec le divin, et qui se joue à l'endroit même où s'opère la translation entre les deux mondes, celle de la relation du commun des mortels et, comme on dit à Madagascar, des ancêtres parfumés. Alors là, je vais vous décliner en images, donc, un certain nombre de modèles choisis. Ça, c'est le geste de la prière qui commence comme ça et qui se termine de cette manière à la fin de la prière. Ce que vous voyez là, c'est ça se passe à l'intérieur du zoom, c'est-à-dire de la maison où sont déposées les reliques royales, au moment d'un rituel auquel j'avais participé et que j'avais pu photographier. Ça, c'est un autre modèle, c'est un couteau à circoncision royale qui servait à aiguiser les enfants, les garçons du roi. Et d'ailleurs, en malgache, on disait Rangi Triumbila, c'est-à-dire le fait d'aiguiser le jeune taureau, qui est la métaphore pour qualifier le fils du roi. Alors là, c'est un modèle absolument clé à Madagascar, qui représente des poteaux au pied duquel, qui sont des azumanga, c'est-à-dire des poteaux lignagés au pied duquel se déroulent les circoncisions des garçons, et qui sont, si vous voulez, des modèles, une métaphore de toutes les représentations de ce qu'on pourrait appeler la logique sociale d'un lignage. Je ne vais pas répéter ce qui est marqué là. Ce qui est important de noter, c'est l'opposition entre la partie qui est encore couverte en Écosse et qui représente d'ailleurs les enfants à venir comme l'avenir, à la partie qui s'épointe de plus en plus pour arriver à sa pointe, à son extrémité, sa dernière extrémité, qui est la représentation du divin. C'est une image qui précède, si vous voulez, quand je parle au début de l'adaptation par la dynastie conquérante des pratiques religieuses et sociales précédentes, ce qu'ils vont trouver en particulier comme outil en image de ces pratiques religieuses, ce sont ces poteaux qui jusqu'à maintenant sont encore en activité à Madagascar. Ici, vous avez la représentation du tombeau. C'est un dessin qui a été dressé au début du siècle, du XXe siècle, d'un des premiers rois de la dynastie, dans la région de Beng, près du fleuve Mangouk, entouré de ces poteaux épointés. De même, ce qui donne une idée donc de l'évolution historique de la chose, tombeau d'un roi, un croquis de Valentin dressé en 1726. Ça, c'est un tombeau qui a été entretenu, qui a été un peu réaménagé au moment de la période coloniale, et qui appartenait à la reine Narouz, qui a vécu donc à Madagascar dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le tombeau d'un noble, qui reprend effectivement de la même manière ce motif. La maison du gouverneur, vous voyez aussi, le motif est pointé sur le toit de la maison, et en équivalence, le palais de la reine et la maison du roi sur les hautes terres au début du XIXe. Le palais de la reine a été une reconstruction, on ne va pas entrer dans ce débat, qui a été faite par un architecte anglais, qui est une adaptation de l'architecture anglaise, créole et malgache par rapport au même modèle. Je ne vous ai pas lu ce que je voulais dire sur l'aiguisé. On peut dire que, pour qualifier très rapidement cette image, comment approcher Dieu au plus près à l'image du roi qui en est le descendant direct par sa propre généalogie, ou de tout ancêtre au plus loin que l'on remonte et qui concourt à ce mouvement ininterrompu vers le divin où chacun ainsi peut prendre une place. On verra un petit peu plus loin aussi comment les choses peuvent se dire être autrement. L'espace, métaphore du cosmos et de la destinée. L'astrologie, qui sera introduite d'ailleurs, qui deviendra un élément absolument clé dans l'organisation politique, religieuse et sociale des royaumes à Madagascar, introduite par les dynasties dont je parlais tout à l'heure, en tout cas à partir de l'exemple de dynastie Sakhalab. L'astrologie définit la place de chacun dans le mouvement ininterrompu de tous les éléments du cosmos, totalement, comme je l'ai dit, transparent pour Dieu seul. Par sa nature, le roi descendant de Dieu et sa famille s'approchent de cette transparence comme du point ultime de ce qui est le plus aiguisé possible. Il détient de cette manière le H, qui est une notion extrêmement importante à Madagascar. Si vous voulez, c'est tout le sens de la dignité, au sens le plus fort. Le pouvoir légitime. Le commun des mortels vit dans l'obscurité et doit passer par l'effort de la connaissance déployé par le devin qui déchiffre le vide pour sonder les vérités issues du divin, le H, dont il capte ainsi, comme je l'ai dit, des bribes. Vous voyez bien le double mouvement entre deux légitimités, comme on le disait tout à l'heure, celle qui naît de la nature du souverain lui-même et celle qui est acquise par le processus de la connaissance elle-même à travers l'astrologie et d'autres choses et qui consolide définitivement les mécanismes du pouvoir et qui s'exprime à chaque instant à travers des images intériorisées comme celle que j'essaie de présenter là. Le tombeau consacre la forme la plus achevée du destin social d'un individu. Il est la mise en scène, un peu d'ailleurs sur l'image des notables égyptiens qui essayaient d'être au plus proche des pyramides ou des tombeaux des pharaons. Il est la mise en scène de la proximité la plus grande possible avec le divin par la déclinaison des signes du pouvoir. La plastique de la sépulture et son esthétique traduit et consacre cette réussite. Passerelle entre les deux mondes, il est le symbole de l'éternité du lignage et sa prolificité est garantie par l'ardeur amoureuse des hommes et des femmes qui lui appartiennent et qui ne veulent en tant qu'individus que pour cela. On verra à travers quelques images ce que tout cela signifie. Aucun individu en dehors du roi et de certains responsables des lignages les plus élevés, n'avait d'importance en tant qu'individu. La seule importance qu'il avait, c'était ce que son sexe pouvait apporter à l'avenir du lignage, qu'il soit homme ou femme. Ainsi, le tombeau est comme le centre de gravité du cosmos, son épure concentrée dans les règles de l'astrologie du Vind. Le son est important, hein, c'est pas pour vous faire, pour vous amuser. Et oui, qu'est-ce qu'on entend là? L'Antsivabé, c'est-à-dire un coquillage qu'on appelle une conque, si vous voulez, on enlève l'opercule, et qui était, si vous voulez, ça permet, comme je l'indique là, c'est ce qui permet de réaliser l'espace. Et l'espace est un des lieux clés à Madagascar, de l'imagerie aussi du pouvoir. À chaque instant dans l'espace, se jouent les rapports de pouvoir entre les gens. Et même au niveau le plus bête et le plus simple, si vous restez debout à côté de quelqu'un qui est assis, il peut vous en vouloir énormément, surtout si vous avez la prétention de connaître les règles de politesse dans cette société, puisque, au fond, vous vous mettez d'emblée à un autre niveau dans l'espace par rapport à lui, et qui ne respecte pas la réalité des relations sociales, et ainsi de suite. Tout se lie à chaque instant dans l'espace, dans le haut et le bas. Et où qu'on aille, à quelque place, même si on prend un avion, un train ou quoi que ce soit, je peux vous donner un exemple qui pourra peut-être vous paraître trivial, mais qui est extrêmement intéressant. Je me souviens d'une vieille dame qui était paysanne et qui n'avait jamais vraiment voyagé. On l'avait logée chez nous à Tana, il y avait un deuxième étage. Et on expliquait comment fonctionnait une maison comme ça, avec les salles de bain et tout ça. Et elle a compris qu'il y avait des toilettes et qu'au fond, les gens pouvaient déféquer au-dessus de sa tête. Et c'était devenu quelque chose d'insupportable pour elle. Absolument insupportable. Puisque justement, dans l'espace d'un seul coup, l'idée que le fait de déféquer à Madagascar, c'est extrêmement important, l'idée que quelqu'un pouvait être au-dessus de sa tête en train de manipuler des déjections, enfin d'expulser des déjections, la mettait elle plus bas que terre, et ça lui était insupportable. C'est pour donner une idée, c'est extrêmement important. C'est résumé là dans un objet qui est très, très utilisé sur la côte ouest, mais encore maintenant, qui est le plat dans lequel on dépose la part qui va aux ancêtres au moment des sacrifices lignagés. Et qui résume à lui-même, comme c'est marqué là, j'espère que c'est clair, bon, j'ai essayé de faire ça de manière simple, que toutes les oppositions entre le haut et le bas et à quoi elles renvoient, et la manière dont elles sont liées au système de l'astrologie, qu'on va voir maintenant, voilà. Et donc, toutes les oppositions, on les retrouve ici. Madagascar, c'est magnifique pour ça, parce que ça marche extrêmement bien. Et entre l'Est, le Nord, l'Ouest et le Sud, et dans une maison d'ailleurs, même encore maintenant, chacun se place en fonction... On peut lire toute la hiérarchie sociale qui structure un groupe quelconque quand on voit la manière dont les gens vont s'asseoir à un moment, immédiatement, à l'intérieur d'une maison. On peut lire aussi en même temps les résistances à cette hiérarchie, quand on voit aussi ceux qui n'y vont pas, ou qui refusent, ou qui se mettent à certains endroits, alors qu'on lit immédiatement que c'est une impolitesse totale. Bon, ça aussi, un magnifique objet, qui est un plateau à sacrifice royal, et dont vous lisez immédiatement qu'il est fondé sur une opposition entre justement le monde des vivants et le monde des morts, et qui permet de penser justement le rapport aux ancêtres et aux divins. Enfin, on parlait des tombeaux tout à l'heure et de la créativité des artistes. Ça, c'est celle qui correspond, c'est une œuvre du sculpteur Rachidagne, qui a vécu donc jusqu'aux années 79-80, il est mort je crois en 79, et qui était un des plus fameux, et qui a poussé, si vous voulez, dans la créativité, lui a permis de pousser jusqu'à son terme, cette idée que le lignage est le lieu au cœur duquel se forgent, si vous voulez, toutes les possibilités de la construction à la fois d'une éternité pour le passé et pour l'avenir. Je crois que c'est extrêmement important, et cette image, à mon avis, absolument magnifique pour ça. Je pense que l'image est claire pour elle-même. La tête de l'animal de sacrifice, l'orientation toujours du plat sacrifice en direction du nord-est, qui est donc la direction du divin, de même que les têtes de canards qui représentent le canard, en particulier le canard à bosse, en Goung, à Madagascar, et le symbole de l'ardeur génésique. Les canards, d'autant qu'ils ne sont pas trop chassés dans ce paysan de la chance, se reproduisent énormément. Voilà une image aussi du palais de la reine à Tananarive, situé sur sa colline, pour vous donner une idée du rapport entre le site royal et sa position dans l'espace. Nécropole Sakalav installée sur une hauteur et orientée vers le nord et vers l'est pour qualifier le pouvoir des défunts en les ordonnant dans leur proximité au divin. Ces tombeaux sont donc disposés sur des collines de sable qui sont au bord de la mer, tout orientées, et chaque tombeau, si vous voulez, qualifie, construit d'une manière définitive plutôt, la place du défunt dans l'ordre, disons, des ancêtres, et qui sera définitivement son statut, puisque chaque vie est un combat pour obtenir la meilleure place possible, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, une image plus rapprochée, enfin, plus gros plan. Et ça, c'est une image des mêmes tombeaux prise par Tessonnière. Donc, c'est un militaire français au moment de la conquête coloniale de Madagascar. On voit dans l'encadré, là, 3-4 militaires. Je pense que c'est une photo qui doit dater de 1903-1904. Enfin, un autre objet pour cette mise en scène, il s'agit d'un rituel très important de Bilou, qui est un rituel linagé, qui est un rituel qui permet la mise en scène, justement. Encore une fois, on est dans une question de réflexivité, c'est-à-dire les chakalas se représentent ce qu'est un lignage à travers un rituel de ce type, et c'est la meilleure manière qu'ils ont à la fois de le penser et de le dire, et cette estrade leur permet de mettre en scène, justement, tout ce qu'ils... La femme qui est bile, c'est-à-dire qui est atteinte, qui est jugée malade et ça met en danger justement le lignage, on va la soigner en la traitant comme une ancêtre, comme une princesse défunte, pendant tout un rituel sur lequel je ne reviens pas. Et ça permet justement de rétablir les relations avec les ancêtres qui sont jugés là, en l'occasion, comme étant, si vous voulez, mettant en danger les vivants par rapport à cette maladie impromptue. Je le dis mal, mais bon, il faudra en dire beaucoup plus. Alors, nous arrivons le bœuf, métaphore de la société. Pourquoi métaphore de la société ? Simplement parce que, il suffit de... En parlant du bœuf, c'est-à-dire les bœufs au moment des rituels sont découpés en des parties extrêmement précises. Je peux vous dire qu'il y a quelquefois des petits morceaux de rien du tout qui portent un nom et ont un sens et qui permettent de qualifier les choses, de qualifier les relations entre les gens, et pas simplement de les qualifier dans l'absolu, bien entendu, mais aussi de décrire une situation nouvelle et de lui donner un sens. Et je crois que c'est aussi là une manière de sociologie pratiquée, entre guillemets, pratiquée par ces gens sur leur propre société. Alors vous voyez une conjugaison des motifs de l'aiguisé des cornes de zébu, je ne vais peut-être pas entrer dans les détails, ça serait trop long, qui sont disposés... sur les tombeaux et qui sont liés aux alliances aux liens entre les défunts et ceux qui participent aux funérailles et qui sont un geste aussi de la prière et de l'association à ce départ. Ça, c'est un tombeau royal avec les cornes d'or. Tandoubulamen, ça veut dire, c'est le symbole par excellence, si vous voulez, de la royauté. Là, c'est d'autres motifs découpés aussi sur des poteaux, des blasons de clan, et qui déclinent différentes manières stylistiques. Vous voyez, en trois parties, la tête, la bosse, ce sont des ébus, donc des bœufs à bosse, et la croupe, qui dessinent des motifs de zébus, et qui sont en quelque sorte de véritables. Voilà, là, on le voit plus clairement encore. Certains sont stylisés, d'autres sont carrément figuratifs, qui indiquaient l'importance de la richesse en bœufs du groupe en question, puisqu'on ne pouvait pas être à la fois proche du divin, être un grand groupe lignager ou appartenir à la famille royale et ne pas avoir de bœufs. À tel point d'ailleurs que quand dans certains troupeaux, certains avaient des robes de bœufs qui étaient recherchées pour certaines cérémonies royales, ils s'en défaisaient puisque s'ils n'appartenaient pas, si eux-mêmes n'étaient pas, disons, de ces groupes-là, ils ne pouvaient pas les garder, c'était trop dangereux pour eux. Puisque ces robes avaient... Les robes, enfin bon, on pourrait entrer là, c'est tout un problème d'analyse économique et sociale extrêmement intéressant. Les chances d'apparition des robes étaient liées à l'importance des troupeaux. Alors, quelquefois, le hasard faisait que quand même, il y avait des robes très rares qui apparaissaient dans des troupeaux qui n'étaient pas trop importants numériquement. Le corps, métaphore des hiérarchies. Je pense que je... Voilà. On a vu tout à l'heure le hazoumang, le poteau à circoncision. Vous avez là ce qu'on appelle Sharingbil, c'est-à-dire la statuette sur laquelle on expulse au moment du rituel du bil dont on a parlé tout à l'heure, qui est un rituel d'exorcisme. On expulse le mal qui habite en général la jeune femme ou la femme tout court qui est atteinte par ce mal et qui est aussi une symbolisation absolument magnifique de tous les mêmes, enfin des mêmes principes que nous avons vu tout à l'heure, d'opposition. J'ai rajouté l'amour, parce que ça semble totalement évident, entre les corses, la partie dénudée, et la tête qui représente, en fait, tout ce qui amène vers le divin, le plus divin qui soit, et tout ce qui est la garantie de l'avenir, etc. C'est une image qui est au cœur de tout le monde, absolument là-bas, et qui est totalement évidente. Bon, là, c'est... La même chose, c'est une... Je l'ai, pas numérisé, mais négativé. C'est une image d'un blason de clan qui reprend exactement les mêmes principes. Vous le voyez là, au milieu. Tous ces blasons de clan, qui à partir d'une représentation anthropomorphique de la tête aux pieds, déclinent toutes sortes d'homologies. De Dieu aux hommes, du roi au peuple, des ancêtres vivants, du chef de lignage à ses membres. C'est-à-dire tous les principes du pouvoir présents à travers ces objets et ces images, et qualifie sur le tombeau la place du groupe dans la hiérarchie sociale et en conséquence sa richesse en bœufs. Ça, c'est une autre sculpture de Racidan, qui est aussi un des points d'évolution de cette architecture funéraire dans la même logique. Et là, des postures, c'est extrêmement important. Qui est celui-là? Avan. Twer, on est en 1904, le général Gallieni gouverne Madagascar et on va remettre les reliques des anciens rois du Ménabé au général en signe de reddition. C'est intéressant, ils portent tous le felm, c'est-à-dire le signe des guerriers et du pouvoir sur la tête, et ils sont ce qu'ils sont à travers leur corps. Imaginez Gallieni à ma place, si j'ose dire, voilà, parce qu'on est face à eux. Le maquillage. Bon, une autre manière de faire et de travailler les corps, ça c'est toujours au moment de ce rituel de bile, où le maquillage blanc et noir sur le front est la marque de l'ancêtre qui s'installe progressivement. Blanc, signe du défunt incarné, et noir, signe du devin et de sa connaissance qui ouvre le chemin. Les deux éléments dont on a vu tout à l'heure de l'exercice du pouvoir dans cette société. Et enfin, une manière d'être aussi avec le corps, c'est extrêmement important. Le corps est une image. Et l'incorporation de cette image et la manière de la restituer aux autres, dans son rapport aux autres, est formidable. C'est une princesse, Sakala, photographiée au début du XXe. Dans tous ses atours et dans la force de son être, moi je la trouve magnifique. Voilà. Les corps et les hiérarchies, c'est la, bon, une image que j'ai choisie aussi qui est très intéressante. On verra. Vous voyez, c'est un rituel, bon, c'est un rituel lié à un des membres de la famille dynastique auquel j'avais assisté. Je vous passe les détails sur le rituel. Mais ce qui est important de voir là, c'est la position des corps les uns par rapport aux autres. Entre les descendants du prince debout, les batteurs, le souffleur de conque qu'on a entendu tout à l'heure, les batteurs de tambours sacrés qui sont debout aussi, et puis les gardiens de la nécropole, les gardiens étant des anciens dépendants des esclaves. Le talisman énoncé par l'image. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un talisman ? C'est une construction par un objet et dans une image d'une réponse à un problème posé. Et constamment, les devins guérisseurs sont amenés à apporter ce type de réponse à des questions de toute nature, même encore maintenant, quand il s'agit de résoudre le problème d'un gamin qui a, ou d'une gamine qui a des problèmes scolaires, etc., il va repartir avec un petit objet. Et dans cet objet, il dit quelque chose. Bon, c'est ça, c'est très important. Bon, alors, justement, dans la même logique, je vais un peu vite, un peu ça, mais je voulais simplement vous faire un peu rentrer là-dedans maladroitement. Vous avez là la relique du roi Ndobichard, donc un des premiers rois de cette dynastie. Bon, c'est un exemple de talisman qui vient pas exactement de cette région du pays Sakala, mais un peu plus à l'est, et un autre aussi magnifique. Voilà. Et dans ces deux objets, il y a tout un énoncé qui se développe. Alors, bien sûr, on ne va pas rentrer dedans. D'ailleurs, je ne saurais pas exactement quoi vous dire, mais c'est très important de le lire et de le comprendre à la suite de tout ce qui vient d'être dit. Enfin, je termine avec quelques images qui sont, si vous voulez, dans une certaine mesure, la traduction dans la période, disons-nous, du début du XXe. Vous avez là la dernière reine de Madagascar qui, à la suite de la conquête coloniale, va être exilée à Alger, où elle va mourir d'ailleurs en 1917. Et qui est là comme une princesse russe faisant partie de la nomenclatura, si vous voulez, des aristocraties européennes de l'époque. La même, quelques temps après, je crois que c'est 1923, image des archives Gaumont aussi, c'est le retour des cendres, c'est intéressant. Notez au passage la justification. La reine va être enterrée donc dans ce qu'on appelle la Tranu Manar, c'est-à-dire que les Sakalab appellent la maison de Tranu Vint, la maison de la destinée, c'est-à-dire elle va être installée, en référence à tout ce qui a été dit, au cœur du cosmos. 1947, la fin des combats, la reddition des combattants après les événements douloureux qui sont. Regardez bien les images. Et voilà, et on terminera sur cette dernière image, qui est celle, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, il y avait une image que je voulais vous montrer, mais peu importe. C'était l'interview d'un vieux gardien de tombeau qui raconte comment autrefois, lui l'ayant connu, on faisait ce qu'on appelle le matseruke, c'est-à-dire que quand on apportait à manger, lui l'exemple qu'il donne, il apportait à manger au roi, eh bien il fallait s'accroupir et avancer à reculons, etc. Et voilà, on retrouve ici le matseruke devant les militaires français en 1947. Voilà, je vous remercie.